Tout d'abord, merci beaucoup Thomas Gagné d'avoir accepté l'invitation pour une entrevue pour parler justement des enjeux de votre parti, soit le Parti libéral, aux prochaines élections fédérales dans Manicouagan. Monsieur Gagné, ça va bien?
Oui, ça va très bien Madame Paquet, ça me fait plaisir d'être avec vous et vos auditeurs aujourd'hui.
Oui, ben nous aussi, en fait, parce que on va faire un portrait, en fait, de vous en tant que candidat du Parti libéral pour les élections qui vont avoir lieu le 20 septembre prochain, je le rappelle aux auditeurs. Et justement, les enjeux qui sont pris en compte dans le Parti libéral pour la Côte-Nord, nous, on est un petit peu plus concentrés en Haute-Côte-Nord, mais en général, ça ressemble à quoi?
Parfait, ça va me faire plaisir. Bien, d'abord, il y a des enjeux au niveau pour tout le Canada, pour tout le Québec. Vraiment, là, la sortie de pandémie, on espère que ça achève. On est toute tannée de l'année et demie qu'on a passé là-dedans. On veut parler de l'avenir puis de la reprise. Puis ça, c'est évident que ça vient toucher la Côte-Nord parce qu'on a vu, moi, je me suis promené beaucoup dans le comté dans les derniers jours. Puis on voit beaucoup qu'il y a des endroits où il y a de la dévitalisation. Il y a des entreprises qui ont dû mettre des employés à pied aussi. Donc ça, c'est certain qu'on veut... il faut que la Côte-Nord fasse partie de la relance. Puis pour ça, moi, c'est le message que je veux porter pendant cette campagne-là jusqu'à la fin. Il faut être autour de la table. Il faut vraiment que cette fois-ci, la Côte-Nord se donne les moyens d'être autour de la table des décisions, discuter, être près du gouvernement, faire partie du gouvernement pour pouvoir influencer ces programmes d'aide-là qui s'en viennent puis les projets. Je pourrais vous parler de plein de dossiers précis que des gens m'ont parlé. Je suis sûr que vos questions vont venir aussi un peu là-dessus, mais c'est certain que moi, je vois la plupart d'entre eux dans cette loupe-là du développement économique régional, puis de la relance économique qui s'en vient suite à la pandémie. Il faut être autour de la table pour faire valoir nos projets. Puis moi, je sais que les gens sont bien conscients là, que je ne suis pas de la place, mais ça ne me dérange pas. Je vais travailler fort pour aller chercher la confiance des gens. Puis c'est surtout après, j'ai un beau réseau politique à Ottawa. Ça fait un bon bout de temps que je fais ça. Puis tout ça, je le mets au service du comté de Manicouagan si les gens de la Côte-Nord font le choix de me faire confiance le 20 septembre.
Donc, on comprend que oui, vous êtes... Vous n'habitez pas sur la Côte-Nord présentement, mais si vous êtes élu, c'est une chose que vous allez faire.
Absolument. C'est drôle parce que j'ai des amis de chez nous, là, du coin de l'Outaouais, qui me posent la question, des gens avec qui je travaille aussi durant la campagne au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais moi, c'est clair, quand on accepte de mettre notre nom puis de faire ça, de mettre sa face sur la pancarte, comme on dit, pour moi, ça vient avec. C'est clair, on va s'organiser comme on s'organisera après, mais je vais venir m'installer sur la Côte-Nord, ça, c'est certain.
La relance économique, ça fait partie d'une de vos priorités. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui a été dépensé avec la pandémie. Il y a la PCU qui a été donnée, qui continue aussi d'être donnée. Ce qui malheureusement, bien, heureusement, peut aider plusieurs, mais malheureusement, fait en sorte que dans la main-d'œuvre, entre autres, partout au Québec, mais sur la Côte-Nord, c'est très difficile. Il y a des entreprises qui n'arrivent pas. Il y a beaucoup de commerces qui doivent fermer plusieurs journées parce qu'ils n'ont personne. Je sais que du côté du Parti conservateur, on parlait d'être capable de rebalancer le budget d'ici 10 ans. Comment qu'on peut faire ça, une relance économique dans une région éloignée comme la Côte-Nord?
Parfait, c'est important, c'est d'excellentes questions. La première chose, moi, quand les conservateurs parlent dans cette campagne-là de rééquilibrer, de faire l'équilibre budgétaire rapidement sur 10 ans, la question va venir pour eux, ça va être « OK, mais vous coupez dans quoi? » Quand M. O'Toole nous dit aussi « Moi, dans la pandémie, j'aurais fait ça différemment. » OK, qui auriez-vous pas aidé à ce moment-là? Il y a des questions, j'ai hâte de voir aussi dans les débats des chefs, comme tous les citoyens, un peu qu'est-ce que M. O'Toole va répondre, parce que c'est important pour l'avenir. Est-ce qu'on veut vraiment embarquer dans leur vision? Ils sont prêts à faire des reculs sur les changements climatiques au niveau de l'environnement. Et puis là, bien, ils nous promettent des choses, un équilibre, mais ça veut dire qu'il y a certaines aides qui ne seront pas là. Nous, ce qu'on fait, on ne s'en cache pas, depuis le début, depuis 2015, il était clair qu'on était prêts à faire des investissements pour développer certains projets, nos infrastructures. Là, évidemment, la pandémie est venue chambouler ça beaucoup là, depuis 2019. C'est pour ça que M. Trudeau va en élection. C'est une question qui revient souvent. Pourquoi là? Pourquoi maintenant? C'est pour aller demander aux gens. Parce qu'en 2019, quand on a demandé aux gens leur opinion, ils ont voté. Il n'y avait pas de pandémie dans le portrait. Il n'y avait pas de relance économique. La relance économique, ce n'est pas pour un an ou deux ans. C'est pour un sur plusieurs années qui vont suivre. Fait que ces programmes-là, cette aide-là qu'on va développer, il faut le faire ensemble. Il faut être autour de la table pour pouvoir l'influencer pour que ça reflète les besoins de la Côte-Nord. Fait que moi, vraiment, je vous dirais, sur la pénurie de la main-d'œuvre, ça revient beaucoup. Première chose à dire là-dessus, là, il ne faut pas oublier. Ça revient partout en ce moment au Québec, au Canada, cet enjeu-là. Mais il ne faut pas oublier, ça existait avant la pandémie. Ça existait avant l'élection. Vous vous rappellerez l'élection de 2018 au provincial, les candidats, les chefs en parlaient partout, les commerces qui fermaient, les restaurants qui ne pouvaient pas ouvrir. Alors, il y a quelque chose qui date de beaucoup plus longtemps que ça. Il y a des choses qu'on aurait peut-être dû faire comme société longtemps avant. Mais donc, on va travailler effectivement à essayer de résorber les choses, essayer d'aider nos entrepreneurs à être capables de s'en sortir. Ça veut probablement dire aussi d'accueillir l'immigration aussi. Donc, on sait que c'est tout un enjeu des fois. On n'est pas toujours d'accord, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral à Ottawa. Mais là, je pense qu'on commence à prendre conscience, tout le monde, que ça fait partie. Moi, j'ai une petite histoire personnelle. J'ai un oncle portugais qui est arrivé à Bécomo dans les années 70. C'est comme ça qu'il est accueilli au Québec, au Canada. Aujourd'hui, intégré, c'est un entrepreneur. Il y avait des blocs appartements, il fait plein de choses. Rencontré une des tantes, une des sœurs de mon père, une de mes tantes. Puis, ils ont eu des enfants, une belle famille. Il s'est installé ici, il n'est jamais reparti. Tu sais, ça a commencé à Bécomo pour lui. Alors, la Côte-Nord, elle a tout ce qu'il faut pour attirer des gens, puis les garder, puis offrir des emplois. Maintenant, c'est sûr qu'on les gouvernements, nous, fédéral, le provincial aussi, doit être là pour appuyer nos entrepreneurs, nos gens qui ont bâti nos commerces, nos entreprises. Les petites comme les grandes.
Mm-hmm. Et justement, il y a deux aspects au fait que la Côte-Nord se vide, là, je vais le dire dans cette expression-là. Ouais. Oui, les immigrants qui pourraient venir s'établir ici, ça le fait partie des enjeux des autres parties. On parlait de peut-être l'acquisition la reconnaissance des acquis plutôt quand les gens ont un métier qui fait en sorte Absolument. Que quand ils arrivent ici, c'est plus ou moins reconnu. En fait, c'est pas reconnu du tout.
Absolument.
Et il y a le fait aussi que les étudiants qui sont ici, qui ont vécu ici, qui s'en vont à l'extérieur, n'ont pas tendance à vouloir revenir parce qu'il n'y a pas d'emploi qui sont offerts. Il n'y a pas nécessairement toujours le salaire qui est intéressant non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la Côte-Nord dans ces deux aspects-là?
Oui, vous faites bien de poser la question, c'est vraiment bon. Là. Et puis, on m'a parlé beaucoup, ça me faisait penser quand je vous écoutais, le fly-in, fly-out aussi, les entreprises qui vont emmener des travailleurs dans les grands chantiers, après ça, qui repartent, qui ne s'installent pas, nos jeunes qui quittent effectivement pour aller étudier et qui ne reviennent pas. C'est deux grands défis aussi. Moi, où je vois de l'espoir, par exemple, pour les jeunes, peut-être qu'il faut les aider, peut-être que ça prend des incitatifs, on verra avec le temps ce qu'il faut faire. Je pense que ça va faire partie de la relance. C'est peut-être leur donner le goût de revenir. Parce que là où je trouve qu'il y a de l'espoir, c'est qu'on entend beaucoup des gens qui ont fait du télétravail pendant un an et demi. Moi, j'en fais partie. Là, j'ai presque pas remis les pieds physiquement au bureau ou au Parlement pour la ministre pour laquelle je travaillais avant. On a tout fait ça en virtuel, donc à distance. Donc, je pense qu'il y a des gens de plus en plus qui regardent ça et qui disent « Pourquoi je pourrais pas faire ça en région? Pas besoin de me taper le trafic à Montréal, à Ottawa ou à Québec. Moyen d'aller faire ça par chez nous, dans des beaux coins. La Côte-Nord, c'en est vraiment un bel exemple. Là, tout le long de la 138, comment que c'est beau. Là, les paysages, le milieu de vie, puis les gens sont très chaleureux. Alors vraiment, moi, je le vois comme ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire sur la Côte-Nord pour garder nos gens. Peut-être un nouveau chapitre qui s'ouvre où les gens vont pouvoir revenir occuper le territoire, revenir chez eux, peut-être dans la terre, les terres de leur famille ancestrale, puis parce qu'il y a une opportunité de le faire aujourd'hui. On l'a prouvé pendant un an et demi. On peut travailler dans plusieurs métiers à distance, à la maison avec une caméra. Puis de là, l'importance des bonnes connexions Internet, puis de l'Internet haute vitesse sur lesquels on a fait beaucoup, le gouvernement, entre autres sur la Côte-Nord, mais sur lesquels il y a encore beaucoup à faire, c'est certain.
Oui, il y a eu récemment cette annonce-là qui a été faite au niveau de la Haute-Côte-Nord, précisément, exact. Pour plusieurs résidences. D'autres candidats s'attaquent même à penser à être capables de pouvoir le faire partout sur le territoire, partout sur la 138, partout sur la 389. C'est vraiment très particulier ici sur la 389. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de vous promener, mais aucun réseau cellulaire. C'est Absolument. Seulement des boîtes téléphoniques d'urgence qui font en sorte que quelqu'un qui pourrait avoir qui aurait un accident, le temps de marcher à une boîte, ça se peut qu'il ne se rende malheureusement pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire en sorte que les gens qui y sont ou les gens qui se déplacent pourraient avoir ce minimum-là d'une connexion Internet, d'un réseau pour avoir justement la sécurité routière en tête?
Oui, et c'est un immense défi. Je pense que tout le monde, je ne vais pas prendre la personne sur la Côte-Nord que c'est un immense défi puis que c'est pas simple pour prendre le slogan d'une compagnie, d'une quincaillerie connue. Si ça existait, on l'aurait. Mais en même temps, ça change. Il y a des nouvelles technologies qui se développent. Il y a des belles entreprises au Québec qui commencent à offrir des services de téléphonie dans des endroits qui étaient difficiles à atteindre par les lignes filaires traditionnelles qu'on a connues, que ce soit du satellite, que ce soit, il y a différentes options possibles. Ça coûte cher encore, mais il y a moyen que ça évolue, plus ça va se développer, je pense que plus on va avoir des options. On m'en parle aussi beaucoup aussi, parce que je donne un petit coup de main pour la campagne aussi aux candidats du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un autre. Donc, dans nos régions au Québec, finalement, c'est la même chose pour Mme Leboutillier en Gaspésie. C'est vraiment un grand défi. Puis il y a des endroits où c'est plus facile quand il y a des réseaux établis, routiers, entre autres, pour les compagnies de le développer. Puis évidemment, sur la Côte-Nord, il y a comme ce niveau de défi-là qui est encore plus grand, sur lequel il va falloir regarder sérieusement. Ça, c'est certain. C'est, aujourd'hui, là, il n'y a pas grand dans secteur de l'économie qui peuvent se passer là, d'être connectés sur Internet avec une connexion de qualité. Fait que je pense que les gens qui réussissent à le faire en ce moment avec beaucoup de courage, il va falloir que tous les niveaux de gouvernement là, soient là pour les aider à l'avenir pour qu'on améliore ça, ça c'est certain. Puis le gouvernement fédéral va être au rendez-vous, ça c'est sûr.
J'ai le goût de vous amener aussi sur un autre sujet qui est le fameux pont sur le Saguenay qui évidemment fait parler depuis des décennies et des décennies. Souvent, on se prête un petit peu la balle provinciale, fédérale. On sait que c'est un petit peu plus provincial. Un candidat avait expliqué que si on reconnaissait la route de façon nationale, peut-être que c'est un projet qui pourrait être envisagé et pris au sérieux pour les fédéraux. Pour ce qui est d'un pont sur le Saguenay, oui, touristiquement parlant, parce qu'il y a de l'attente aussi, il y a des heures et des heures d'attente pour le tourisme, mais aussi pour les résidents de tous les jours. Est-ce que du côté du Parti libéral, il y a quelque chose à faire pour le pont sur le Saguenay?
Moi, c'est intéressant, c'est drôle parce que dans ma famille ici au Saguenay, j'ai un ancien député fédéral, M. André Harvey, qui a été responsable pas mal, là, qui a travaillé très fort pour la route à quatre voies dans le parc des Laurentides, dans le Québec, puis Chicoutimi. Puis la faire reconnaître comme route du réseau national, ça a vraiment été un des gros facteurs qui a aidé les deux paliers du gouvernement. Alors, je vous dirais, moi, j'aurais la même approche. J'apprends beaucoup de cette histoire-là pour le dossier du pont à Tadoussac puis Baie-Sainte-Catherine. Puis vraiment, je pense que c'est ça. Je voudrais pas le promettre. Je ne voudrais pas faire de fausses promesses. C'est l'erreur que font des fois des politiciens, des candidats là-dessus, de dire ça va être fait en 4 ans, ça va être facile. C'est pas vrai, tout le monde le sait. Maintenant, est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut travailler fort pour y arriver, pour faire avancer le dossier, pour que le fédéral vienne à la table aussi pour qu'on contribue? Ça, je pense qu'on peut y réfléchir ensemble. C'est un dossier sur lequel je voudrais travailler très fort. Par contre, ça faut être autour de la table. Donc, c'est vraiment moi l'argument numéro un que je répète beaucoup, là, c'est que si les gens veulent que ce dossier-là avance, c'est pas en restant dans l'opposition, c'est pas avec le Bloc québécois cette fois-ci que ça va pouvoir avancer plus. Moi, j'invite vraiment les gens à faire un choix courageux et déterminé, peut-être un peu différent des dernières élections, puis d'aller de vouloir venir autour de la table pour que ça puisse avancer ce dossier-là, parce que je le comprends très bien là, que c'est pas seulement pour les touristes, la traverse, c'est vraiment pour les résidents aussi, pour le camionnage aussi, que c'est problématique, puis il faut réfléchir à ça là, définitivement.
Et puis je vous dirais même que ça pourrait être, c'est souvent un enjeu qui est peut-être moins parlé, mais aussi au niveau du réchauffement climatique, nos bélugas, on a cette chance-là d'en avoir quelques-uns chez nous. Il en reste très, très peu. Donc, ça peut être aussi un enjeu qui est aussi au niveau de l'environnement. Il y a plein de choses qu'on pourrait parler, évidemment, mais là, on n'a pas tant de temps que ça. mais je vais peut-être terminer avec un dossier parce que, dans les prochains jours, il va avoir aussi une conférence de presse pour justement s'adresser aux candidats qui sont dans Manicouagan qui pour les élections du 20 septembre à propos de l'assurance-emploi. J'aurais aimé avoir votre façon de voir, votre vision sur l'assurance-emploi, cette réalité particulière-là sur la Côte-Nord.
Oui, moi, ça me fait plaisir d'en parler. C'est un dossier sur lequel je travaillais avec la ministre Leboutillier en Gaspésie qui était à tous les jours, j'en entendais parler. Alors, on a vraiment travaillé. On est quelques Québécois dans l'équipe qui viennent des régions et puis qui sont conscients là, qu'on a des endroits où on a des défis particuliers. L'assurance-emploi, comme beaucoup de programmes sociaux, a été créé à une certaine époque avec certains critères, certaines façons de faire. Il y a certains moyens pour l'adapter avec le temps, mais je pense qu'on est rendu à une étape où on est assez mûr là, comme société, comme gouvernement pour vouloir réfléchir à comment ces choses-là sont faites. Donc, encore une fois, c'est un exemple où si on veut vraiment que la Côte-Nord soit écoutée, est-ce qu'il va y avoir une réflexion, est-ce qu'il va y avoir une réforme totale, partielle de l'assurance-emploi? Ça, je pense que ça va être dans les prochaines années qu'on va le voir, mais il y a un appétit là, certainement dans toutes les régions du Québec pour qu'on réfléchisse à ça. Toutes les régions qui ont des travailleurs saisonniers, des travailleurs qui doivent aller sur l'assurance-emploi d'une façon plus structurelle, là, ça, c'est certain que ça existe. On emploie un petit peu la terminologie trou noir des fois pour parler de ça, de gens qui tombent un petit peu dans les craques du système, mais je vous dirais, fait, on s'est aperçu, dans le cas de la Gaspésie, ils avaient pas mal été réglés parce qu'ils ont eu autour de la table une ministre, une députée qui connaissait la réalité de ces gens, du secteur des pêches en particulier, du secteur touristique là-bas, puis qui a aidé à faire évoluer les choses. Fait que moi, j'étais avec elle pendant que ça se passait, avec le ministre Duclos aussi, qu'on connaît bien, qui est dans la région de Québec, qui a travaillé fort sur ce dossier-là, qui en était responsable. Alors, il faut la même chose. Moi, j'invite vraiment les gens du comté de Manicouagan, de la Côte-Nord, à venir autour de la table, faire un choix courageux le jour des élections, puis de voter pour un candidat du Parti libéral pour qu'on puisse avoir une influence sur ce qui s'en vient sur ce dossier-là, parce que c'est important.
Parfait. Bien, je pense que ça a fait le tour et évidemment, on aura la chance peut-être de se reparler. Je vous souhaite une bonne campagne et au plaisir.
Parfait. Merci beaucoup.